baisse les 1000 milliards de dollars que ce dont on avait parlé. Et il y a des déceptions. Il y a des déceptions qui s'expriment. C'est à la fois une opportunité que personne ne veut lâcher, y compris d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, mais beaucoup moins important. Un peu comme quand Manuel Valls appelait les investissements chinois en France en pensant que ça allait tirer la croissance française. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était finalement très limité, sauf certains secteurs.
Vous n'avez pas évoqué un continent, on en parle. L'Afrique, la Chine-Afrique.
Avec une question qui se pose, effectivement, parce que quelles pourraient être les conséquences sur l'Afrique d'un ralentissement de la croissance chinoise? La question se pose d'autant que l'argent de Pékin coule à flot sur le continent africain. Ça a d'ailleurs grignoté assez largement le terrain qui était traditionnellement occupé par les industriels français, à tel point qu'on parle aujourd'hui de Chine-Afrique comme on parlait de France-Afrique, alors que les relations ne sont pas exactement les mêmes. En gros, en tout cas, le deal est le suivant. L'Afrique vend des matières premières stratégiques à la Chine, du pétrole, des minéraux et des métaux. Et la Chine va exporter des produits manufacturés. Elle va investir surtout dans les infrastructures en Afrique. On sait que dans le secteur du ferroviaire, du routier, du télécom, la part de marché des entreprises chinoises atteint déjà 50%. Plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent sur le continent. Et ce partenariat est, ou en tout cas était parti pour durer, puisqu'en septembre dernier, Xi Jinping avait promis une nouvelle enveloppe conséquente de 60 milliards et l'annulation d'une partie de la dette, en tout cas pour les pays africains les plus vulnérables, pour certains pays, et une partie de la dette. Un ralentissement donc de la Chine, ça pourrait fragiliser cet édifice. Et on se souvient surtout qu'en 2015, la baisse de la demande chinoise, ça avait une conséquence directe puisque ça avait provoqué l'effondrement des cours des matières premières africaines. Jean-Paul Chang, je vous ai vu faire non dans tout ce que je disais. Est-ce que la Chine doit s'inquiéter? Est-ce que la France peut, elle, profiter de ce recul éventuel?
Vous pensez que la France a beaucoup de capitaux à exporter, à investir, c'est ça le problème. Non, j'ai tiqué sur une présentation qui me paraît très sommaire, quelquefois, sur la présence, c'est pas la première fois que j'entends ça, dire que les Chinois sont là pour prendre les matières premières. Je crois que...
J'ai pas parlé de pillage, je parle de deal, en fait.
Oui, bien sûr.
Mais ils ont besoin de ces matières
premières. Mais si on regarde de près, c'est aussi le seul pays qui, par exemple, en prenant du pétrole, installe des distilleries. Ni Français ni Américains n'ont jamais acheté des raffineries de pétrole. Donc, dans un certain nombre de pays qu'on connaît, qui sont francophones, je veux dire, ce n'est pas vraiment je te prends uniquement ta matière première et je te donne.
Les relations sont plus équilibrées qu'autant
de la première. C'est pas plus équilibré, mais disons qu'on ne peut pas, simplifier et caricaturer la présence chinoise comme ça, autrement on ne comprendrait pas. L'accueil que les Africains ont fait aux Chinois. C'est-à-dire, quelque part, il y a quand même des installations d'industrie, soit effectivement lourdes, comme raffinerie, pétrole, soit des industries de transformation aussi.
Et justement, est-ce que l'Afrique peut s'inquiéter
François Godemont, oui.
Pardon. Je partage un peu ce que raconte Jean-Paul Chang, c'est-à-dire que la Chine pratique l'aide liée, nous on ne le fait plus. Donc vous avez d'un côté des contrats commerciaux qui sont à l'avantage de la Chine, par exemple des produits miniers, mais de l'autre côté il y a des crédits pour faire, je ne sais pas, un chemin de fer peut-être pour amener les produits miniers, l'accès à un port, au final ils sont gagnants. Le gros problème c'est la soutenabilité de la dette pour les Africains. Et c'est là où vous avez raison, à chaque fois un pays comme l'Angola par exemple est étranglé si le cours du pétrole tombe en dessous de 50 dollars en gros, et étranglé par une dette chinoise. Les remises de dettes chinoises, il y a eu des faux titres dans la presse. Là-dessus, c'est des montants minuscules pour l'instant. Le gros risque, c'est que tout ça retombe très franchement sur le Club de Paris ou sur le FMI, parce qu'on ne veut pas laisser couler ces pays. C'est là qu'il y a le problème.
Alors, on a vu l'image du Premier ministre chinois grave et même alarmé par la situation économique. Enfin, c'est ce qu'il a dit lors de cette fameuse assemblée. Son portrait, le portrait de Li Keqiang, évidemment, je l'ai complètement mal prononcé, c'est pas très grave, par Olivier Boucreux.
Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. La croissance chinoise ralentit et le Premier ministre avoue un coup de mou. Alors, faut-il confesser Li Keqiang? On connaissait déjà l'impénétrable Xi Jinping ou sa chanteuse de femme Peng Liyuan, star de l'armée populaire de libération. Mais on ne sait pas grand-chose du Premier ministre Li Keqiang, 61 ans, pourtant à ce poste depuis 2013. Si on vous parle de Li ou de lui maintenant, c'est parce que devant l'Assemblée, il a crié.
Aline !
Non, pas Aline, mais croissance pour qu'elle revienne. Enfin, crier le mot est peut-être un peu fort dans un pays qui ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Même s'il faut l'avouer, ce numéro 2 est un poil plus rigolo que son numéro 1.
En tout cas, on y croyait quand il a débarqué à ce poste, approuvé par 2940 députés du parti sur 2949. C'est vrai, sur son CV, on trouvait quand même une bonne petite affaire de sang contaminé et des méthodes musclées pour empêcher la vérité, mais on y croyait. Né dans une province pauvre du pays, ce brillant technocrate diplômé de droit, docteur en économie, tendance réformiste, allait pouvoir faire souffler un petit vent frais. Marié à une prof d'anglais, il parlait la langue de Shakespeare comme personne, voulait réduire les inégalités avec une vaste politique d'urbanisation. Au bout du compte, le Premier ministre n'est que l'ombre de son hyper-président, sans marge de manœuvre, sans pouvoir. Plusieurs hauts responsables économiques ont même récemment été remplacés par des proches de Xi Jinping. Bref, la seule chose qui lui reste, c'est d'annoncer les mauvaises nouvelles.
Merci Olivier Boucre. Vincent.
Valérie Niquet, ce ralentissement de la croissance, est-ce qu'il va avoir des conséquences en politique intérieure? C'est-à-dire concrètement, est-ce que Xi Jinping peut être à terme menacé ou ébranlé du fait de ces mauvais chiffres économiques?
Alors, ce qui est certain, c'est que Xi Jinping n'a sans doute pas le pouvoir absolu. Alors, il concentre énormément de pouvoir, ça c'est certain, mais qu'on peut le dire. Et il est sous la surveillance de ses pairs, en tout cas. Quand on suit ce qui se passe en Chine, ce qui s'écrit, on voit surgir très régulièrement des critiques voilées, notamment sur ses choix de stratégie extérieure très, très, disons, agressifs ou très en avant. Où il parle, enfin très sûr de lui, dont on pense que ça a été une des causes, dont certains en Chine pensent que ça a été une des causes des tensions avec les États-Unis. Et par ailleurs, si la croissance s'effondrait réellement, et surtout si elle avait des conséquences sociales graves dans la population, c'est un régime dont il faut savoir qu'il peut se passer quelque chose un jour ou l'autre. Je ne comparerai pas avec l'Algérie, mais enfin, les choses qui ont l'air très stables peuvent tout à fait bouger. Et donc Xi Jinping est quand même sous l'œil de ses pairs. Et si il ne parvenait pas à maintenir la stabilité sociale, il serait sans doute soumis à des pressions assez fortes.
François Godemont, vous avez l'air dubitatif à l'idée d'un nouveau Tiananmen.
Si. Pour l'instant, il a le pouvoir. Ouais. Personne depuis Mao n'a eu autant de pouvoir. Comme il incarne un culte de la personnalité que les Chinois n'aiment pas, toutes les élites, tous les gens qu'on rencontre discrètement font des signes de scepticisme ou d'ironie. Mais il a le pouvoir et il a quelque chose qui, pour moi, est en commun avec son grand prédécesseur, avec Mao, c'est qu'il peut passer de la droite à la gauche, si j'ose dire, très vite. Donc Li Keqiang, que votre reportage a réussi à rendre drôle et qui est en fait un personnage qui a un petit peu avalé son parapluie, il n'est pas sinistre du tout. Il a même commencé une thèse sur le droit américain, figurez-vous, sur un grand juriste. Donc au départ, c'est quelqu'un qui incarnait une réforme légale, juridique, en réalité très proche de la
Mais qui a été muselé, qui n'a pas pu.
Il est muselé, il est en fait encerclé, si j'ose dire. Et donc en ce moment, on voit Xi Jinping, d'un côté, il a favorisé les entreprises d'État à mort parce que c'est sa base, puis brusquement, ses affidés, ceux-là même qui négocient avec les États-Unis, par exemple, disent qu'il faut encourager le privé, il faut encourager le business. Xi Jinping, c'est la capacité de bouger sur tout le spectre. Il peut être dépassé par le culte de la personnalité, hein, parce que vous savez, ça déforme les gens, et petit à petit, on ne sait même plus ce qui se passe. Mais pour l'instant, je crois qu'il tient les cartes.